Bon, nous allons continuer et puis nous allons entendre maintenant François Bugnon avec l'architecture d'un souvenir de Solferino, le sens et la forme. François Bugnon, je ne pense pas que c'est une personnalité que je dois vous présenter non plus, vous le connaissez tous. Pour moi, c'est une personnalité extraordinaire, ancien directeur de droit du Comité international d'Accra-Rouge, maintenant membre du comité que j'ai le plaisir alors de fréquenter lors de nos séances. Nous tous, auprès du comité, pour nous, François, c'est vraiment le lexique d'histoire, finalement. Il sait tout, c'est vraiment le souvenir. Si nous avons une question, c'est auprès de lui que nous allons, et je suis très, très heureuse de pouvoir l'entendre aussi aujourd'hui. François, je t'en prie.
Merci, Christine. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, ce n'est pas pour avoir soigné les blessés de Solferino qu'Henri Dunant est entré dans l'histoire. D'autres, dont les noms sont tombés dans l'oubli, ont fait preuve d'un égal dévouement, que ce soit à Solferino ou ailleurs. Si nous nous souvenons aujourd'hui d'Henri Dunant, c'est avant tout parce qu'il a témoigné de ce qu'il avait vu et fait à l'occasion de la bataille de Solferino et parce qu'il a tiré de ce témoignage deux idées de génie, la Croix-Rouge et les conventions de Genève. C'est donc sur ce témoignage qu'il convient de s'arrêter et c'est en effet la question qui nous réunit aujourd'hui. Or, si les historiens de la Croix-Rouge ont abondamment disserté sur l'enchaînement qui va de la bataille au livre et du livre à la fondation de l'institution, rares sont ceux qui se sont penchés sur cet ouvrage en tant qu'œuvre littéraire, alors même que plusieurs des plus grands historiens, des plus grands écrivains de l'époque ont salué l'ouvrage de Dunant, sans doute parce qu'ils en ont également reconnu les qualités littéraires. Notre hypothèse est qu'un souvenir de Solferino ne doit pas seulement être perçu comme le livre clé qui est à l'origine de la Croix-Rouge, mais également en tant qu'œuvre littéraire. Nous pensons également que ce livre n'aurait pas eu l'impact qui fut le sien s'il n'avait pas eu des qualités littéraires hors du commun et de surcroît des qualités littéraires qui servaient magnifiquement les desseins de son auteur. Nous laisserons à des commentateurs plus avisés le soin de parler du style de l'ouvrage. Notre propos est de nous concentrer sur l'architecture et d'essayer d'en souligner les lignes de force qui le soutient. Le livre, vous le savez tous, ça a été rappelé hier, commence par un récit de la bataille. Récit épique et brillant, typique de l'historiographie militaire du XIXe siècle. Dans un premier temps, Dunant adopte résolument le point de vue de celui qui embrasse d'un seul coup d'œil la totalité du champ de bataille, le point de vue de Dieu qui est aussi celui qu'adopte Victor Hugo dans la fameuse description de la bataille de Waterloo dans Les Misérables, ouvrage qui paraît pratiquement au même moment qu'un souvenir de Solferino. Puis par un travelling saisissant, Dunant retrace la position, les mouvements des corps d'armée, des divisions, avant de revenir sur terre et de se placer au niveau des combattants qui se lancent à l'assaut des collines tenues par l'ennemi, partiellement dissimulées par des nuages de poussière et de fumée. Toutefois, Dunant, narrateur, n'hésite pas à franchir les lignes, donnant tantôt le point de vue des combattants français, tantôt celui des Autrichiens ou des Piémontais, même s'il adopte plus fréquemment celui des Français. Et allongeant encore la focale, il souligne les hauts faits d'unité particulière pour mentionner finalement des actions individuelles et toujours pour souligner l'intrépidité, le courage des combattants. Enfin, le récit de la bataille se termine, comme cela a été dit, par un panégyrique des empereurs François-Joseph et Napoléon III, dont il vante les mérites. Les blessés ne sont pas totalement absents de cette première partie, mais ils n'en occupent qu'une place tout à fait secondaire, un peu comme dans les tableaux militaires de l'époque, où les peintres utilisent les blessés pour remplir les coins inférieurs du tableau, alors qu'on réserve bien sûr la partie centrale au commandant en chef, souverain ou général, dont les blessés servent à souligner, bien entendu, l'intrépidité. Le jeu est pratiquement absent de cette première partie. Dunant ne l'utilise que dans un seul paragraphe, celui dans lequel il utilise une formule au demeurant évasive pour justifier de sa présence à Solferino. Simple touriste, entièrement étranger à cette grande lutte, j'eus le rare privilège, par un concours de circonstances particulières, de pouvoir assister aux scènes émouvantes que je me suis décidé à retracer. Cette première partie prend fin, bien évidemment, avec la fin des combats lorsque l'armée autrichienne se replie à l'est du Minchio. La coupure s'impose d'autant plus évidemment que, ainsi que ça l'a été rappelé hier, un énorme orage s'est abattu sur la région vers les 5 heures de l'après-midi, clouant au sol les troupes épuisées, interdisant aux franco-piémontais de poursuivre l'ennemi et d'exploiter leur victoire. Ce sont alors des ombres étranges qui cheminent dans la nuit à la recherche d'un peu d'eau et de nourriture et se heurtent aux soldats blessés, étendus sans soin à même le sol, dont les gémissements déchirent le silence de la nuit. Toutefois, pour qu'on prenne la mesure du désastre, il faut évidemment attendre la lumière du lendemain. C'est donc le lever du jour qui finalement consomme la transition entre la première partie du livre et la deuxième. Le soleil du 25 juin éclaira l'un des spectacles les plus affreux qui se puisse présenter à l'imagination. Le champ de bataille est partout couvert de cadavres, d'hommes et de chevaux. Les routes, les fossés, les ravins, les buissons, les prés sont parsemés de corps morts et les abords de Solferino en sont littéralement criblés. De cette deuxième partie du livre, les événements militaires sont totalement évacués. Certes, me direz-vous, la bataille avait pris fin au soir du 24 juin, mais il y eut encore des mouvements de troupes importants, des escarmouches et surtout l'envoi de parlementaires devant déboucher sur l'ouverture de négociations et l'armistice de Villafranca. De tout cela, Dunant ne souffle mot. Non pas qu'il n'ait pas mesuré l'importance de ces événements, mais parce que rien ne doit distraire le lecteur de ce qui fait maintenant l'essentiel de son récit, le sort des blessés de guerre. Pour retracer l'agonie des blessés de guerre, Dunant va suivre chacune des étapes que ceux-ci devront parcourir. Il commence par décrire la façon dont on relève les blessés et les morts, l'impossibilité de noter l'identité des soldats tombés au combat, le risque d'enterrer bien des vivants avec les morts. Il relève les problèmes de l'évacuation, les souffrances que cela entraîne pour les blessés, et puis finalement cette énorme concentration de blessés à Castiglione, 500 dans la seule église principale de la ville, la Chiesa Maggiore, et l'absence de médecins, puisque l'armée française ne compte sur place que 3 médecins et 6 médecins auxiliaires. Pour des milliers de blessés, vous imaginez la scène. Autant dire que la plupart des blessés seront bien entendu laissés à l'abandon. Et au risque de heurter son lecteur, Dunant décrit par les menus les conséquences de cet abandon, les hommes qui meurent de soif, les plaies qui s'infectent rendant inévitable l'amputation, les bandages trop serrés interdisant la circulation du sang et entraînant la nécrose des tissus, l'odeur putride, les nuages de mouches, la solitude, la souffrance, le désespoir et la mort. Dans cette masse de blessés, Dunant cite les noms de plusieurs officiers qu'il avait mentionnés dans la première partie, ainsi que ceux de nombreux soldats. Il cite aussi de nombreux sans-grade, des soldats anonymes, mais appartenant à des unités dont il avait souligné les exploits dans la première partie du récit. Dans cette deuxième partie, le jeu est bien présent. Alors qu'il n'apparaissait que dans un seul paragraphe de la première partie, Dunant utilise dans la seconde, à 64 reprises, le jeu pour parler de lui. C'est dire qu'il se pose ici non seulement en témoin, mais en acteur qui s'efforce, avec les moyens limités qui sont les siens, de lutter contre la souffrance à laquelle il est confronté. Un acteur bien modeste qui décrit en termes très simples son action au service des blessés. Il ne s'agit en effet ni d'amputation, ni d'aucune autre opération, mais il faut donner à manger et avant tout à boire à des gens qui meurent de soif. Puis il faut panser leurs plaies ou laver ces corps sanglants, couverts de boue et de vermine. Confronté à l'horreur, Dunant s'efforce de parer au plus pressé et le fait par des gestes simples, ceux que toute personne de cœur à sa place aurait fait. Il donne à boire, il lave des plaies, remplace des bandages, recueille les dernières paroles d'un mourant, envoie son cocher à Brescia pour y acheter de la nourriture, des vivres, des draps, des étoffes, mobilise bien sûr les bonnes volontés, à commencer par les femmes et les jeunes filles de Solferino. Ainsi, le « je » cède rapidement la place au « nous » lorsque Dunant se retrouve à la tête d'une petite troupe de secouristes improvisés. En attendant, nous avons gagné des recrues qui se joignent à nous. C'est un vieil officier de marine, puis deux touristes anglais, sans parler bien entendu des femmes et des jeunes filles. Mais le « je » s'efface également devant le « vous » lorsque Dunant témoigne de la souffrance des blessés et utilise le « vous » pour impliquer le lecteur. Les malheureux blessés qu'on relève pendant toute la journée sont pâles, livides, anéantis. Ils attachent sur vous des yeux hagards. Cette interminable description de l'abandon et de la souffrance des blessés débouche sur une double question qui marque la transition vers la troisième partie de l'ouvrage. Mais pourquoi avoir raconté tant de scènes de douleur et de désolation et avoir peut-être fait éprouver des émotions pénibles? Pourquoi s'être étendu, comme avec complaisance, sur des tableaux lamentables et les avoir retracés d'une manière qui peut paraître minutieuse et désespérante? À cette question toute naturelle, qu'il nous soit permis de répondre par une autre question, n'y aurait-il pas moyen, pendant une période de paix et de tranquillité, de constituer des sociétés de secours dont le but serait de faire donner des soins aux blessés en temps de guerre par des volontaires zélés, dévoués et bien qualifiés pour une pareille œuvre? Ainsi, de même que l'articulation entre la première et la deuxième partie du récit s'était faite en deux temps, avec la tombée de la nuit puis le lever du jour, de même, l'articulation entre la deuxième et la troisième partie se fait à travers cette double question. Cette troisième partie, nettement plus courte, est bien entendu tout entière consacrée à exposer la solution que Dunant, fort de son expérience de Castiglione, préconise pour éviter le retour d'une tragédie comparable à celle dont il a été le témoin. Puisque la guerre est inévitable, puisque les services de santé seront toujours débordés au moment d'une grande bataille, il faut faire appel à des sociétés de secours volontaires qui mobiliseront les ressources de la société civile et les constituer en temps de paix déjà. De cette troisième partie, le « je » est totalement absent. Dunant utilise le style impersonnel qui sied à celui qui conclut une démonstration. Ainsi, le livre s'articule en trois parties de dimension tout à fait inégale, puisque la première compte 32 pages, la partie centrale 66 et la troisième seulement une douzaine. La deuxième partie du livre, donc le témoignage sur la condition des blessés, de ce que Dunant avait vu et fait, n'a jamais donné lieu à contestation. Il en va de même des conclusions. En revanche, la première partie du récit, la description de la bataille, à l'évidence rédigée de seconde main, a donné lieu à toutes sortes de controverses. On a tout d'abord reproché à Dunant d'avoir voulu se mettre en valeur en donnant à croire qu'il avait assisté à la bataille, alors qu'en vérité, il était arrivé à Castiglione au moment où les choses se sont terminées. Dunant répond à cette critique dans ses mémoires. Mais en vérité, une lecture attentive du souvenir de Solferino permet déjà de répondre à cette accusation, puisque Dunant, je l'ai mentionné, passe constamment en tant que narrateur d'un camp à l'autre, ce qu'un témoin, évidemment, ne peut pas faire. Les qualités littéraires de ce récit ont été mis en cause, notamment par l'éminent historien Alexis François. On a également reproché à Dunant d'avoir voulu embellir son récit de considérations stratégiques qui ne peuvent être de son cru. Mais surtout, on a vu dans le récit de la bataille la manifestation d'une fascination à l'égard des armées. Le reproche est grave, s'adressant au fondateur de la Croix-Rouge, au philanthrope, au pacifiste, lauréat du premier prix Nobel de la paix. Et il est vrai que si l'on s'en tient à une lecture au premier degré de cette première partie du livre, Dunant semble en effet s'être laissé entraîner par l'exaltation de la bataille. Dès les premiers affrontements, les clairons sonnent la charge et les tambours retentissent. La suite, les 30 pages qui suivent, sont de la même encre. Ce ne sont que sonneries de clairons et roulements de tambours, drapeaux qui flottent au vent, grondements de la canonnade, glorieuses charges de la cavalerie, bataillons qui montent à l'assaut sous des déluges de feu, positions prises et reprises à la pointe des baïonnettes. Pourtant, si l'on tient compte de l'architecture du livre, c'est-à-dire de l'opposition entre le récit de la bataille et la description du sort des blessés, on comprend que Dunant utilise le style de l'historiographie militaire de son temps pour en dénoncer l'hypocrisie. Et pour le cas où le lecteur n'aurait pas compris, Dunant prend la peine de mettre les points sur les i, en dénonçant, je cite, ces splendides horreurs que l'on nomme la gloire, et en rappelant que c'est dans ces nombreux hôpitaux de la Lombardie que l'on pouvait voir et apprendre à quel prix s'achète ce que les hommes appellent pompeusement la gloire, et combien cette gloire se paye cher. Mais ce n'est pas tout. L'opposition entre la première et la deuxième partie du récit met à nu une injustice plus grave encore. Chaque État attend de chacun de ses soldats qu'il accepte les souffrances et les privations de la vie en campagne et qu'il soit prêt au besoin à faire le sacrifice de sa vie sur le champ de bataille. Est-il blessé? Il a cessé de compter. Et les services de santé restent le cadet des soucis des gouvernements, des chefs de guerre et de l'intendance. Le soldat est abandonné sans soin sur le champ de bataille. Et c'est cette injustice que l'opposition entre le récit de la bataille et la description des conséquences de celle-ci mettent à nu. Et à nouveau, pour le cas où le lecteur n'aurait pas compris, Dunant prend soin de le préciser. Mais en narrateur avisé, il s'interdit d'intervenir lui-même dans le cours de son récit et il utilise ses personnages pour révéler ses véritables intentions. « Ah, monsieur, que je souffre !» me disaient quelques-uns de ces infortunés. « On nous abandonne, on nous laisse mourir misérablement, et pourtant, nous nous sommes bien battus. » Si donc Dunant donne l'impression d'emboucher les clairons de l'historiographie militaire de son temps, c'est pour mieux étayer sa démonstration, car tout le livre vise à préparer les conclusions qui forme l'essentiel de la troisième partie. Donc, vous l'aurez compris, un souvenir de Solferino, en vérité, c'est un théorème de géométrie. La majeure rappelle que les soldats se sont battus toute la journée sous un soleil de plomb, en faisant preuve d'un héroïsme et d'une abnégation hors du commun. La mineure souligne que les mêmes soldats, une fois blessés, ont été laissés à l'abandon, et la conclusion, c'est qu'il faut mettre un terme à cette situation en créant des sociétés de secours qui feront appel à la générosité de la société civile. Ainsi, au-delà des sentiments d'humanité et de civilisation auxquels Dunant se réfère dans ses conclusions, c'est d'abord et c'est avant tout au sentiment de justice que Dunant fait appel à travers cette construction. Bien loin de se laisser emporter par l'odeur de la poudre et l'ivresse du champ de bataille, Dunant utilise le langage de l'époque pour dénoncer cette double hypocrisie, celle du discours officiel qui passe, cette double injustice, celle du discours officiel qui passe sous silence les blessés et les morts, et l'injustice des soldats abandonnés sur le champ de bataille. Dans Un souvenir de Solferino, comme dans toute œuvre littéraire digne de ce nom, la forme est porteuse de sens, ainsi le récit de la bataille est tout autre chose qu'une simple introduction, c'est un repoussoir qui met à nu la double injustice dont sont victimes les soldats et qui prépare le lecteur aux conclusions de Dunant. Car tout le livre vise à préparer ses conclusions. Ainsi, dès la description de la bataille, Dunant met en évidence le rôle des cantinières. Des cantinières s'avancent comme de simples troupiers sous le feu de l'ennemi. Elles vont relever de pauvres soldats mutilés qui demandent de l'eau avec instance. Et elles-mêmes sont blessées en leur donnant à boire et en essayant de les soigner. Comment ne pas voir que cette mise en valeur du rôle des cantinières prépare les nombreuses références aux dames et aux jeunes filles de Castiglione que Dunant enrôle et qui elles-mêmes préfigurent, bien entendu, les infirmiers volontaires des sociétés de secours qu'il appelle de ses voeux. De même, lorsqu'il parle de son propre rôle à Castiglione et puis à Brescia et Milan, Dunant prend soin de souligner qu'il s'agissait de gestes simples que tout homme de cœur aurait fait à sa place et que les futurs volontaires des sociétés de secours feront tout aussi bien et même mieux que lui puisque ceux-ci auront été formés. On mesure par là, entre parenthèses, combien les hagiographes et les cinéastes mal inspirés qui ont voulu faire de Dunant le super-héros de Solferino ont mal lu et mal compris son livre, car Dunant ne cherche à aucun moment à convaincre le lecteur qu'il a joué un rôle exceptionnel. Au contraire, prenant à témoin son futur lecteur, il n'arrête pas de dire « Tout ce que j'ai fait à Castiglione, vous l'auriez fait tout aussi bien et même mieux que moi. » Roger a rappelé la fameuse phrase des mémoires disant combien il était inspiré au moment de la rédaction du souvenir de Solferino. Sans doute, rien ne permet de le mettre en cause. Cela dit, si on examine le livre, on voit qu'il est admirablement construit. Je vous remercie.
Merci beaucoup François, c'était vraiment de nouveau voir et entendre comment ce livre est construit. Moi j'ai une édition tout à fait très simple, en plus encore en allemand, mais c'est ce que j'ai trouvé dimanche dernier dans ma bibliothèque à la maison, parce que c'est un livre que j'ai une fois acheté en passant à Haydn, après une randonnée que j'avais fait là-bas, mais je vais replancher là-dedans et je vais revoir l'architecture, comment tu l'as écrit. Est-ce que vous avez des questions à poser à M. Bunion? C'était tellement clair, tu vois, il n'y a pas de questions.
Ah
oui, quand même, là derrière, oui, je vous en prie.
Bruno, pardon.
À l'envoi de son livre aux autorités des différents pays, quelles ont été les réactions par rapport à la troisième partie? Je pense que la deuxième partie a été choquée dans leurs émotions. Est-ce qu'il y a eu des réactions tout de suite des autorités sur les propositions du Dunant?
C'est le sujet de cet après-midi, alors je sais. D'accord, non, il y a des discours là-dessus, alors je pense que ça serait dommage de le dire déjà maintenant. Je vous en prie.
Merci François pour ce extraordinaire exposé qui fait revivre le livre lui-même. Je reviens à ma question d'hier soir à M. Langendorf, parce que tu as dit que la première partie était écrite de seconde main. J'ai bien compris. Alors qu'est-ce qu'on entend par là? Est-ce que ça veut dire que c'était écrit après le reste ou bien écrit par une autre main?
Non, c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Mais ce que je veux dire, c'est que la deuxième partie, quand Dunant parle de ce qu'il voit à Castiglione, eh bien, il témoigne de ce qu'il a vu. Donc, la source du récit, eh bien, c'est ce qu'il a vu. Donc, en termes de critique littéraire, on dira c'est de première main. Pour le récit de la bataille, je n'ai pas de doute que Dunant s'est documenté. Dunant a lu. Si j'avais eu plus de temps, j'aurais pu vous donner même quelque chose qui est un indice. C'est le paragraphe qui précède celui que j'ai lu. Et où il dit, il écrit « Chacun a entendu ou a pu lire quelques récits de la bataille de Solferino. Ce souvenir si palpitant n'est sans doute effacé par personne, d'autant que les conséquences de cette journée se font encore sentir dans plusieurs états de l'Europe. » Puis ensuite, il y a le paragraphe que je vous ai cité. Et ensuite, il continue « Je ne raconte dans ces pages que mes impressions personnelles. On ne doit donc y chercher ni des détails spéciaux, ni des renseignements stratégiques qui ont leur place dans d'autres ouvrages. » Donc pour moi, à travers ces formules, je pense qu'il révèle très clairement que si chacun a lu, eh bien ça vaut pour tout le monde et ça vaut tout d'abord pour lui-même. Et qu'il a écrit en utilisant des récits, alors lesquels ? Ben, c'est des témoignages, c'est des officiers qui ont raconté le rôle qu'ils avaient joué et de leur mémoire. Deux ou trois ans après l'événement, c'est déjà le cas. C'est des rapports. A-t-il lu le rapport du docteur Brière, ben, ça sera, ou celui du colonel Lecomte, ou capitaine à l'époque. Il faudrait faire une lecture très minutieuse, voir si on retrouve un membre de phrase ou l'autre. Alors cette lecture-là, je ne l'ai pas faite. C'est ça que j'ai voulu dire. Donc, il n'y a aucun doute. Dunant, et il le dit dans ses mémoires, il écrit « Je n'ai pas assisté ». D'ailleurs, qui peut dire qu'il a assisté ? En vérité, le seul qui peut, c'est Victor Hugo, qui lui se place dans le point de vue de Dieu, n'est-ce pas ? Et puis regarde le champ de bataille comme ça. Mais ma foi, on n'est pas Dieu à volonté si facilement. Donc, la réalité du combattant, ben, c'est l'opposé, c'est un autre nom que j'aurais voulu citer, mais j'avais pas le temps. C'est le point de vue de Fabrice Del Dongo dans La Chartreuse de Parme, qui lui, il est au milieu de la bataille, il comprend rien, il voit ce qui se passe, une fois à gauche, une fois à droite, on avance, on recule, et puis c'est un point de vue très limité. Tandis que Dunant, lui, il passe de l'un à l'autre, il utilise tantôt le point de vue supérieur, et puis tantôt, il vient tout à fait à proximité immédiate du combattant, donc un peu comme un cinéaste qui fait constamment des travelling dans un sens et dans l'autre, parce qu'il revient aussi en arrière, mais j'espère ne pas déflorer le sujet du professeur Delpal avec ses remarques. Ce qui évidemment exclut qu'il puisse écrire en tant que témoin. Il écrit en utilisant des sources, donc il écrit de deuxième main. C'est ça que j'ai voulu dire. Je ne prétends pas du tout qu'il ait été aidé. À mon avis, rien ne l'indique qu'il ait été aidé.